Nos routes sont surchargées.
La congestion totale.
Dès qu'on ferme une voie, c'est un drame.
On a toujours deux voies de
quand les chantiers s'accumulent, c'est l'enfer. Tout le monde le sait, même ceux qui réparent.
On a fermé complètement le viaduc Hochelaga.
Pour eux aussi, c'est un casse-tête. Détourner le trafic, ça représente un tiers de leurs dépenses. L'idéal, ce serait que tout se fasse la nuit. Que le matin, ce soit fini.
Ces travaux-là, en direction Pont-Champlain, il faut que ça soit effectué de nuit. On ne peut pas se permettre de fermer aucune voie sur l'autoroute Bonaventure de jour.
Puis à quelle heure ça ferme? Le soir?
Le soir, en direction Pont-Champlain, c'est autour de 20 heures. À partir de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin qu'on peut fermer seulement. Donc, ça nous laisse une plage assez mince. Là.
La contrainte de temps est au cœur du projet qui mobilise ces spécialistes de la Ville de Montréal et de l'Université de Sherbrooke. Leur défi, refaire le tablier de béton d'une autoroute surélevée en une seule nuit. Leur banc d'essai, l'autoroute Bonaventure. Depuis son inauguration en 1967, elle est le principal accès au centre-ville de Montréal, à partir du pont Champlain. À première vue, ses piliers et la chaussée semblent être encore en bon état. En réalité, les pires problèmes se cachent dans le béton de la chaussée, sous l'asphalte. Au long des années, l'eau salée a pénétré les fissures de l'asphalte pour s'imbiber dans le béton, jusqu'aux barres d'armature. Les tiges d'acier se sont gonflées de rouille. Elles ont fait craquer le béton. C'est dramatique dans une dalle qui a à peine 18 cm d'épaisseur, 7 pouces. Heureusement qu'elle est appuyée sur des poutres très rapprochées. Cet été, quand on a arraché l'asphalte et tout le béton endommagé, on s'est retrouvé loin sous le premier rang d'armature. Il ne restait même pas 10 cm de béton solide. Il fallait réparer.
Il fallait le faire en ce moment parce que c'est dégradé, mais seulement à la surface. La partie inférieure du tablier est encore en bonne condition, ce qui nous permet justement de venir n'enlever que la surface et ayant un support en dessous de bonne qualité, pouvoir compter sur ce support-là comme moule et venir déposer le béton et le faire coller.
Et c'est là le défi. Comment ouvrir l'autoroute le lendemain matin alors qu'un béton normal prend un mois à durcir? Évidemment, on n'a pas pris un béton normal. Un mois plus tôt, nos spécialistes s'étaient retrouvés chez Béton Mobile à Laval pour tester deux bétons à prise rapide. Impossible de les transporter tellement ils durcissent vite. Ils figeraient dans la cuve du camion. On utilise une bétonnière spéciale. Elle garde chaque ingrédient séparé. On les mélange à la dernière minute, au moment de couler le béton. Du béton à prise rapide, ce n'est pas vraiment nouveau. Mais ceux qu'on teste aujourd'hui ont bien d'autres qualités. Ils doivent être étanches et il leur faut une adhérence exceptionnelle pour se greffer au vieux béton. On leur ajoute même des fibres. En acier, dans un cas, et dans l'autre, elles sont en plastique.
Le vieux béton est déjà stabilisé depuis plusieurs années. Le nouveau, lui, a tendance, en vieillissant durant les premiers mois, là, à se contracter légèrement, ce qui entraîne à l'intérieur du matériau des contraintes de traction, ce qui a tendance à faire fissurer des micro-fissures. Mais on veut éviter le plus possible que ces micro-fissures-là se produisent. Et c'est pour ça qu'on ajoute des fibres. Les fibres vont justement jouer le rôle de micro-armature qui vont empêcher les fissures de se former ou qui vont empêcher, si jamais elles se forment, de s'ouvrir de façon trop importante.
C'est important que les fissures soient minces. Comme le béton continue à réagir avec l'eau, elles vont se colmater d'elles-mêmes en quelques mois. La surface retrouve son étanchéité. 3 heures après avoir coulé le béton, on peut déjà forer des carottes. On peut même vérifier s'il a bien collé au vieux béton. Une journée payante.
Les résultats au niveau de la production
du béton avec fibre d'acier. Ça s'est bien passé parce qu'on peut les intégrer au sable. Donc, ils sont déjà prémélangés. Donc, on n'a pas d'étape supplémentaire à faire. On utilise la bétonnière mobile selon les procédures habituelles. Et on arrive à faire un béton qui était tout à fait conforme à ce qu'on s'attendait. Là. Donc, je ne prévois pas de problème particulier à la mise en place de ce béton-là.
Effectivement, ce n'est pas le nouveau béton qui a posé problème. C'est que l'autoroute était bien plus dégradé qu'on ne le croyait. Il a fallu beaucoup de minutie pour dégager les armatures sans causer de nouvelles fissures. Ce n'est qu'après 3 nuits complètes de travail qu'on a pu finalement couler la nouvelle surface de béton. Il a fallu travailler vite pour finir la surface avant qu'elle durcisse. Mais pour le reste, tout s'est passé comme prévu.
Aujourd'hui, c'est une pratique. C'est vraiment un essai préliminaire pour justement bien calibrer nos échéanciers, bien calibrer les temps de travail nécessaires à chacune des étapes pour éventuellement, dans une année ou deux, procéder à la réparation de tout le tablier d'autoroute, alors qu'aujourd'hui, on n'a fait que quelques dizaines de mètres carrés. Là.
Ce qu'on retient de cette pratique, c'est que la préparation de la surface demande beaucoup plus de travail qu'on ne l'avait pensé. Et quand les dommages ne sont pas visibles à l'œil nu, on ne peut pas se fier à quelques forages ici et là. Il faut de meilleures techniques d'auscultation. Cela réjouit Jamal Razi, qui a utilisé le même laboratoire de l'autoroute Bonaventure pour illustrer ses nouvelles techniques d'examen.
Les ingénieurs civils ont besoin d'un certain nombre d'informations pour faire le diagnostic des ouvrages. Par exemple, ils ont besoin de connaître la résistance à la compression du béton. Ils ont besoin de connaître l'état de corrosion des armatures dans le béton armé. Ils ont besoin de connaître, par exemple, la porosité du béton. Ils ont besoin aussi de connaître l'état de fissuration du béton. Donc, toutes ces informations-là vont leur permettre de faire justement le diagnostic des ouvrages. Dire, en quelque sorte, si l'ouvrage est en bon état ou il a besoin de réparation.
Son premier moyen, la caméra infrarouge avec laquelle il mesure la chaleur du béton. L'autoroute accumule cette chaleur pendant le jour. Quand le soleil baisse, en fin d'après-midi, la caméra montre des taches plus chaudes à la surface du béton. Ce sont des endroits où le béton contient de l'eau encore chaude, parce qu'il est fissuré, poreux ou dégradé. Mais Jamal Razi ne voit que la surface. Il ignore la profondeur des dommages et l'état réel des armatures. Pour cela, il a plutôt recours au radar. Ces ondes électromagnétiques pénètrent le béton comme des rayons X. La technique est encore peu utilisée. Les images sont difficiles à interpréter.
On ne voit pas d'absorption, donc il n'y a pas de potentiel de corrosion, puis on ne voit pas de zone de délamination non plus.
Après 10 ans d'efforts, Jamal Razi parvient maintenant à les décoder.
Cet endroit-là, par contre, il n'y a pas d'absorption, donc il n'y a pas de corrosion.
Il peut mesurer la profondeur de chaque tige d'armature. Il peut aussi voir les zones imbibées de sel qui provoquent la rouille de l'acier. Et en combinant l'infrarouge et le radar, on peut désormais décrire avec précision les dommages cachés dans le béton.